France Info.
Bienvenue à tous dans l'émission politique de France Info. On est ensemble jusqu'à 9h comme tous les matins avec vous, Jean-Michel Apathy. Bonjour.
Bonjour Fabienne.
Gilles Bornstein est là également avec Guy Birenbaum et notre invité ce matin est Premier ministre.
Bonjour Édouard Philippe.
Bonjour Jean-Michel Apathy.
L'écrasante victoire des candidats d'En Marche, dimanche au premier tour des élections législatives suscite beaucoup d'inquiétudes parmi les responsables politiques. Le risque, disent-ils, c'est l'hégémonie. Et celui qui le dit le mieux, ce n'est pas un hasard si nous l'avons choisi, c'est Alain Juppé. On l'écoute.
Aurons-nous demain une chambre monocolore, ce qui n'est jamais bon pour le débat démocratique, ou bien dans cette chambre, dans cette Assemblée nationale nouvelle, aurons-nous un groupe qui, dans un esprit constructif, pourra animer le débat démocratique ?
400 députés, une chambre monocolore, ce n'est pas une bonne chose, dit Alain Juppé. Que lui répondez-vous ?
Alors d'abord, je voudrais vous répondre à vous. Vous avez parlé de victoire au premier tour. Il n'y a pas de victoire au premier tour, monsieur Apathy. Il y a un premier tour, et après ce premier tour, il y a un deuxième tour.
Je vous assure qu'on a entendu des perdants dimanche soir.
Oui, je sais.
Ils le reconnaissaient même.
Oui, mais moi je suis, s'agissant des élections, d'une très grande prudence, et si je peux me permettre ce terme, d'une très grande humilité vis-à-vis du suffrage des Français. Les élections législatives, elles se termineront dimanche soir, et on verra ce que les Français choisissent de dire par leur vote.
Vous doutez d'avoir une majorité absolue ?
Je pense que les résultats du premier tour laisse à penser qu'il y aura une majorité, c'est vrai, et je m'en réjouis, pour une raison très simple. C'est que pour que le gouvernement puisse mettre en œuvre les orientations et atteindre les objectifs qui ont été fixés par le président de la République, il faut qu'il puisse disposer d'une majorité à l'Assemblée. C'est le sens de la Ve République. Donc, bien sûr, je souhaite une majorité stable à l'Assemblée nationale.
Et que répondez-vous à Juppé ?
Mais je sais aussi qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs et qu'on verra dimanche soir. La deuxième chose, c'est que j'entends, et j'entends toujours avec beaucoup d'attention, et s'agissant d'Alain Juppé, avec beaucoup d'affection, ceux qui disent qu'il y a un risque à avoir une majorité qui serait à l'Assemblée nationale trop puissante. Je me permets d'indiquer que la démocratie française, elle repose sur une majorité parlementaire et sur d'autres piliers du pouvoir. Le Sénat, par exemple. Je n'ai pas entendu les amis que je peux avoir dans le camp des Républicains dire, avant le début de la campagne législative, qu'il fallait surtout pas qu'ils aient, eux, une majorité, parce que sinon, ils auraient tous les pouvoirs à l'Assemblée et au Sénat, et que ce serait un problème pour la démocratie. Évidemment, ils ne pouvaient pas le dire, et évidemment, ils ne le pensaient pas. Il faut une majorité stable à l'Assemblée nationale, pour que nous puissions mettre en œuvre les mesures sur lesquelles nous nous sommes engagés, et puis ensuite, il y aura un débat. Il y aura un débat au sein de l'Assemblée nationale, parce qu'il y aura des oppositions au sein de l'Assemblée nationale.
Mais ce sera un débat avec vous-même, en fait, ce sera un débat avec
vous-même. Pas du tout. Moi, je ne crois pas du tout que les députés qui choisiront de se placer dans l'opposition seront silencieux. Je pense même qu'ils seront extrêmement toniques. Et d'ailleurs, quand je vois tous ceux qui ambitionnent d'être élus et qui se positionnent dans l'opposition au président de la République et au gouvernement, je vois des gens assez toniques, voyez-vous. Et puis, il y aura le Sénat, où il y aura des discussions. Et puis, il y aura les rapports que l'on peut avoir avec les collectivités territoriales. Quand j'entends les prises de position d'élus à la tête d'exécutifs extrêmement puissants, Madame Pécresse en Ile-de-France, Monsieur Wauquiez dans la région Rhône-Alpes, Monsieur Bertrand dans les Hauts-de-France, Monsieur Morin en Normandie, cher à mon cœur, la Normandie, je vois bien que...
Pas Monsieur Morin,
oui. Mais aussi, oui, bon, enfin, la Normandie surtout. Je vois bien des élus qui se placent pas dans une position qui sont quand même plutôt dans l'opposition.
Donc pas de risque d'hégémonie, des contre-pouvoirs, ils existent, peut-être même existeront-ils dans le groupe En Marche. Je vous propose d'écouter, elle était hier l'invitée de la matinale de France Info, Laetitia Avia, qui est candidate dans la 8e circonscription de Paris et qui a déjà des velléités de dissidence. Écoutez-la.
Oui, nous avons une personnalité, oui, nous avons de la réflexion, oui, nous allons challenger le gouvernement, puisque c'est le rôle, hein, c'est le rôle des élus, c'est également de contrôler l'action du gouvernement.
Vous pourrez voter contre, hein. Vous vous sentez voter contre une loi, une proposition qui viendrait du gouvernement.
Qui ne vous plaît pas.
Évidemment.
Peut-être que vous aurez vos propres frondeurs.
Non, mais là encore, disons les choses clairement, le fait qu'il y ait des gens et des candidats, et demain je le souhaite, des élus ambitieux, exigeants, déterminés, mais c'est une excellente nouvelle.
Enfin, on dit ça au début, ouais. Et puis après, quand il lève un peu trop la
mais
tête...
Mais c'est une excellente nouvelle pour la démocratie. Madame, messieurs, vous êtes extraordinaire. Vous nous dites, première question, oh là là, majorité écrasante.
C'est Alain
et
Juppé
ensuite,
qui le dit.
Deuxième question,
pas nous,
hein. Vous posez la question. Et ensuite, deuxième question, vous dites, oui, mais à l'intérieur, il y a des gens avec une forte personnalité. Mais tant mieux. C'est un plus pour tout le monde. C'est un plus pour le Parlement, c'est un plus pour le gouvernement, c'est un plus pour tout le monde.
On archive ce passage et puis on vous le repassera.
Vous pourrez.
Gilles Bonstein. L'autre fait marquant de ces élections, c'est l'abstention, plus de 51%, d'où la demande d'une dose de proportionnelle qui figure au programme d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous pouvez garantir ce matin ici sur France Info qu'une dose de proportionnelle ou une proportionnelle intégrale sera introduite pour le prochain scrutin législatif ?
Alors, le président de la République s'est engagé et a considéré, je crois à juste titre, qu'il fallait corriger le mode de scrutin actuel en y introduisant une dose de proportionnelle. Donc moi, j'ai aucun problème avec ça.
Ce sera fait.
Je pense qu'il est utile qu'une dose de proportionnelle soit introduite à l'Assemblée nationale. Vous savez d'ailleurs qu'elle existe déjà au Sénat.
Au Sénat, oui. Certains sénateurs sont élus à la proportionnelle.
Une dose de proportionnelle à l'Assemblée nationale. Non seulement ça ne me choque pas, mais je pense que c'est utile parce que ça permet d'ouvrir la répartition des sièges à des courants politiques qui ont du mal à franchir le cap démocratique, j'insiste là-dessus, du scrutin majoritaire. Le cap démocratique du scrutin majoritaire. Donc, je pense que c'est utile. Après, il y a un sujet sur la dose. Est-ce que c'est une petite dose ? Est-ce que c'est une dose totale ? Bon, là, il y a un sujet.
Votre avis, une proposition existe 10%.
Oui,
c'est Lionel Jospin qui l'a formulé en 2012 dans le cadre d'un rapport.
Je ne sais pas si ce sera 10 ou si ce sera 20. C'est quelque chose qu'il faut regarder dans le détail pour savoir combien de parlementaires restent à l'Assemblée nationale. Et comment est-ce qu'on organise la nouvelle assemblée qui résulterait
avec moins de députés,
avec peut-être moins de députés sans doute, mais aussi avec des modes de scrutin différents.
Vous allez
pour
diminuer
les
le nombre de députés.
Oui.
Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut une dose. J'ai aucun problème. Et ce que je veux surtout dire, c'est que la question que vous posez, elle part sur l'abstention. Personne ne peut se réjouir d'un haut niveau d'abstention. Et peut-être encore moins aujourd'hui que dans le passé, parce que on vit dans une période de menace et voter. Faire son devoir citoyen, c'est aussi un élément de réponse à cette menace. C'est un acte de foi dans la République, je l'ai dit dimanche soir. Donc moi, j'invite vraiment très sérieusement tous mes concitoyens, tous nos concitoyens, à aller voter dimanche.
Vous pourriez inclure cette introduction de proportionnelle dans un projet plus vaste qui verrait, par exemple, une réduction du nombre de députés. C'est ce que vous avez dit, au détour d'une phrase.
Le président de la République a indiqué lui-même qu'il y avait quelque chose dans cette représentation qui méritait d'être corrigé, avec peut-être un peu moins de parlementaires, peut-être une dose de proportionnelle. Je ne dévoile rien, si ce n'est rappeler ce qu'a dit le président de la République. Et quand il dit les choses, en général... Il me demande de les mettre en œuvre.
D'accord. D'une part, on peut oublier. D'autre part, on peut vérifier effectivement si vous êtes en accord avec ce qu'il a dit. Donc, c'est ce qui se passe.
Et en attendant, il est 8h40 sur France Info. On se retrouve dans une minute. Tout pile, l'essentiel, c'est vous, Victor Maté.
Les producteurs de lait appellent à de nouvelles actions aujourd'hui pour un prix d'achat plus important au litre. Hier soir, action coup de poing devant une coopérative près de Vesoul, en Haute-Saône. De la paille et du fumier ont été déversés. C'était il y a un an, le 13 juin 2016, à Magnanville. Un policier et sa compagne étaient tués chez eux, dans les Yvelines, par un homme armé d'un couteau. Un attentat revendiqué par Daesh. Ce mardi, une rue au nom des deux fonctionnaires est inaugurée à Pézenas, dans l'Hérault, la ville d'origine du fonctionnaire. Une minute de silence sera également respectée dans leur commissariat des Mureaux. Les manifestations anticorruption hier en Russie, plus de 1500 interpellations à Moscou, Saint-Pétersbourg et partout dans le pays. Des partisans d'Alexei Navalny, l'opposant numéro 1, lui-même arrêté et condamné dans la soirée à 30 jours de prison. Et puis à Norristown, dans l'est des États-Unis, les délibérations sont suspendues au procès de Bill Cosby. Elles doivent reprendre dans la journée. Le jury doit déterminer si l'ancienne star télé des années 80 est reconnue coupable ou non d'agression sexuelle.
France Info. Édouard Philippe, notre invité ce matin sur France Info. Et la question, c'est vous, Gilles Bornstein.
La réforme du Code du travail suscite des questions et parfois des inquiétudes. Vous voulez élargir le champ des négociations dans les entreprises. Alors, j'ai une question précise. Est-ce que vous inclurez dans les ordonnances que vous allez prendre la possibilité de définir à l'avance, dans un contrat de travail, les causes éventuelles d'un licenciement ?
Ce qui est sûr, c'est qu'on cherche, par cette réforme, notamment par cette réforme du droit du travail, à définir le bon endroit de discussion.
Oui.
Moi, je crois à la négociation, je crois à la discussion. Je pense que c'est extrêmement efficace pour avancer. C'est vrai, dans la préparation des ordonnances et dans le travail parlementaire, mais c'est vrai aussi dans l'entreprise ou dans la branche. Et la question qu'on se pose, et c'est une bonne question, c'est pas un petit débat, c'est pas un débat médiocre, c'est de savoir si il faut discuter dans l'entreprise ou dans la branche. Il y a des sujets qui méritent d'être discutés dans l'entreprise. Parce que c'est
précisément
les causes de licenciement.
Je veux dire, parce que c'est le plus près des salariés, c'est le plus près des questions concrètes qui se posent dans l'entreprise. Et il y a des questions qu'il faut discuter, pas dans l'entreprise, mais dans la branche. Mmh. Parce que ça permet d'avoir une forme d'homogénéité des règles qui vont s'appliquer justement à tous les métiers et à toutes les entreprises.
Le contrat de travail, vous le mettez où ?
On a dit, j'ai déjà exprimé le fait que toute une série de règles relatives au contrat de travail n'avait pas vocation à être discutée dans l'entreprise. Le nombre de CDD, la durée du CDD, le fait que le CDI est le contrat de droit commun, que c'est la norme. Tout ça n'a pas vocation à être discuté.
Mais les modalités de licenciement ?
On verra.
Vous êtes moins catégorique là.
Je voudrais vous dire exactement comment nous procédons. Nous procédons en discutant avec des organisations syndicales et des organisations patronales qui sont des partenaires et que je respecte. Je ne vais pas préempter systématiquement les sujets. Sinon, au moment où je vous répondrai, je vous dirai implicitement que les discussions que nous avons avec ces organisations patronales et syndicales n'ont aucune espèce d'utilité.
Mais là, vous n'allez pas les rassurer.
Je vais reformuler. Est-ce que les causes de licenciement sont sur la table dans ces discussions-là ?
Encore une fois, je vais être d'une très grande précision. J'ai indiqué très clairement que toute une série de sujets relatifs au contrat de travail ne serait pas discuté dans l'entreprise, n'avait pas vocation à être discuté dans l'entreprise. Je l'ai dit clairement. On a sorti de ce sujet de la table des discussions. On a encore énormément de sujets. Il y a 48 réunions qui sont prévues avec les organisations syndicales. On va discuter. Je ne dis pas que ce sera le cas. Je dis qu'on va discuter pour en sortir. Sur ce sujet, le président de la République, la ministre du Travail, moi-même, nous avons dit que nous voulions avancer, que nous étions déterminés. Il y aura des ordonnances, elles seront publiées avant la fin de l'été. Et il y aura, avant la publication de ces ordonnances, des discussions d'une très grande intensité et dans un très grand respect avec les organisations syndicales. Je suis extrêmement attaché au process. Pas parce que je serais d'une rigidité procédurale excessive, parce que je pense que c'est la condition sine qua non d'une discussion respectueuse et intelligente avec les organisations syndicales patronales. Et je note qu'elles y sont prêtes. Pardon, monsieur Apathy, c'est important. Je note qu'elles y sont prêtes. Elles veulent être traitées comme des partenaires et elles veulent pouvoir discuter complètement et intensément de l'ensemble des sujets que nous avons mis sur la table. Faisons-le.
Nous vous posons la question parce que beaucoup d'acteurs politiques, mais aussi des journalistes, au fond, se sont interrogés sur le contenu des ordonnances que vous allez présenter avant la fin de l'été. Alors, dites-vous, des journaux ont publié des documents là-dessus. Le Parisien à un moment, puis dernièrement Libération qui a publié une note émanant des services du ministère du Travail. Et vendredi, Muriel Pénicaud a décidé de porter plainte contre Libération, ce qui a beaucoup surpris, notamment à Libération où on fait valoir un droit à l'information que la plainte pourrait remettre en cause. Cette plainte de la ministre du Travail, vous la soutenez, Édouard Philippe ?
D'abord, pardon monsieur Apathy, mais vous êtes un homme d'une précision intellectuelle reconnue. Madame Pénicaud n'a pas porté plainte contre Libération.
Madame Pénicaud a dû porter plainte peut-être contre X pour vol de documents et recel. Comme c'est Libération qui a publié, ça s'adresse quand même à Libération.
Mais non, contre celui qui a donné
à Libération.
Ah oui, mais c'est pas
vous
la même chose.
Bien que vous fragilisez le droit à l'information. C'est pas un peu spécieux comme argumentation.
Je vais vous répondre très bien. Un des éléments de méthode que j'ai fixé dans la première circulaire que j'ai adressée à l'ensemble des ministres, c'était de s'appuyer sur l'administration. Sur les directeurs d'administration et sur l'administration. Il faut faire confiance à l'administration. Moi, j'ai commencé ma vie professionnelle en étant fonctionnaire. Je crois à la loyauté, à la compétence de l'administration. On ne peut rien faire lorsqu'on est ministre en la mettant de côté. Bon. Mais parce que j'y crois, justement, parce que je suis extrêmement attaché à la fonction publique, je sais aussi que dans le statut de la fonction publique qu'il faut défendre, il y a un certain nombre de droits et il faut les défendre. Il y a un certain nombre d'obligations. Il faut les respecter.
Mais
je ne les conteste pas.
Mais en portant plainte, vous ne...
Attendez, je termine juste.
C'est très rare une plainte. Il n'y a pas beaucoup de précédents de ce type de plainte.
Est-ce que vous soutenez cette plainte ? C'est pour ça que je vous corrige quand vous dites que nous avons porté plainte contre Libération. Nous n'avons pas porté plainte contre Libération. En revanche, il n'est pas acceptable que, pour perturber une discussion, peut-être même pour faire en sorte qu'elle ne puisse pas aboutir, on balance dans la nature des documents qui ne sont pas des documents qui ont été validés par la ministre, qui ne sont pas des documents qui m'ont été présentés à moi, Premier ministre, qui sont des documents rédigés je ne sais pas par qui, à destination de je ne sais pas qui. Voilà. Et c'est le message clair, ferme, que nous avons voulu adresser. Et en aucun cas,
à l'administration,
en aucun cas un message dirigé contre la presse, qui a évidemment non seulement un devoir d'information, mais une envie légitime d'informer. Il ne s'agit pas de brimer la presse.
Il y a toujours quelqu'un qui donne un document à la presse.
Je ne la critique pas. Je ne la critique pas, la presse. C'est pas le sujet. Je dis simplement aux fonctionnaires qu'ils doivent être respectés, mais que pour être respectés, ils doivent aussi respecter les obligations qui leur échoient.
Mais vous reconnaîtrez que la pente, elle est très très glissante, parce qu'on commence avec quelqu'un qui fait fuiter des documents administratifs, on finit avec des lanceurs d'alerte. C'est la même pente, c'est pareil. C'est celui qui fuite.
Mais vous ne pouvez... quelle est la conclusion de votre remarque ? Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir dans l'administration de documents qui seraient inaccessibles à tout moment
si on
à la
attaque
presse.
Ça veut dire que si on attaque systématiquement ceux qui fuitent, ça peut commencer là et ça peut finir aussi vers les lanceurs d'alerte. Et écoutez, que c'est donc une pente qui est dangereuse.
Je crois que Madame la Ministre a envoyé un message qui est un message clair, qui dit que pour s'appuyer sur son administration, il faut qu'on soit assuré de la loyauté de cette administration, que balancer dans la nature des documents qui ne sont pas des documents officiels, qui ne sont pas des documents validés, c'est vouloir nuire à un process dans lequel nous sommes engagés de discussions respectueuses avec les organisations syndicales et patronales, et ça n'est pas acceptable.
Et la question,
c'est
de savoir si vous
soutenez contre la presse.
La démarche de la ministre. Donc nous avons la réponse.
Je crois que le message qui a été envoyé a été clair, mais encore une fois, ce n'est pas du tout un message dirigé contre la presse, ce n'est pas le sujet.
Une autre question de Gilles Vanstone.
De son côté, François Bayrou, le ministre de la Justice, a appelé mercredi dernier le directeur des enquêtes et de l'investigation de Radio France, il s'appelle Jacques Monin, pour se plaindre d'une enquête en cours sur les emplois controversés du MoDem. Je vous propose qu'on écoute Jacques Monin qui relate ce coup de fil du garde des Sceaux.
François Bayrou se plaint auprès de moi en fait en expliquant que des journalistes de la direction de l'investigation jetteraient le soupçon sur des salariés du MoDem en les interrogeant de manière abusive. Il étudie, c'est ce qu'il me dit avec ses avocats, la possibilité d'une qualification de harcèlement. Je lui réponds en lui disant que le harcèlement c'est une qualification pénale et donc que je peux interpréter son coup de fil comme une pression sur moi.
Ce coup de fil d'un de vos ministres à un journaliste vous paraît-il une bonne pratique ?
Non, c'est d'ailleurs...
Non.
Vous savez bien que... En fait, le truc est assez simple. Quand on est ministre, on ne peut plus réagir comme quand on est un simple citoyen.
Ben non.
Et je comprends parfaitement que l'homme, François Bayrou, ait été agacé peut-être... en tout cas c'est ce qu'il a indiqué, par la façon dont les questions étaient posées avec beaucoup de pression probablement sur des gens qui ne s'y attendaient pas. Je peux parfaitement comprendre ça, et d'ailleurs, permettez-moi de vous dire que je pense que l'ensemble des Français peuvent comprendre ça. Il se trouve que quand on est ministre, on n'est plus simplement un homme animé par ses passions ou par sa mauvaise humeur ou par son indignation, on est aussi voilà. Et donc
je crois qu'il l'avait dit.
Je pense qu'il a parfaitement conscience de ça.
Vous lui avez dit ou vous dites.
Je pense qu'il a parfaitement conscience
en tout cas
de ça.
À ne pas recommencer.
Mais je pense qu'il a parfaitement conscience de ça.
Donc vous lui avez dit.
C'est la raison pour laquelle j'essaie et j'ai indiqué à l'ensemble des ministres qu'il fallait systématiquement penser à cette question de l'exemplarité, pas seulement au titre des fonctions qu'on occupe, mais parce que justement, lorsque vous êtes ministre, vos actes, vos propos, votre façon de réagir, parfaitement humaine, n'est jamais interprétée par vous-même et par les Français comme simplement humaine, mais toujours dans le cadre de ses fonctions. C'est comme ça.
Et cette discussion continue. Dans une minute, il est 8h51 sur France Info. Victor Matéla.
La Maison-Blanche condamne avec force les interpellations en Russie. 1500 hier lors de la fête nationale, transformée en journée de mobilisation contre la corruption. L'arrestation la plus symbolique, celle d'Alexei Navalny, condamné dans la foulée à un mois de prison. Le premier déplacement à l'étranger de la première ministre britannique Theresa May depuis son échec aux législatives de jeudi dernier. Et c'est en France, rencontre ce soir à Paris avec Emmanuel Macron, des discussions sur la lutte antiterroriste. Le président français et Theresa May qui ont ensuite assisté au au match amical France-Angleterre au Stade de France. 10 jours après l'attentat de Londres, minutes de silence sur le terrain. La jeune star de Monaco, Kylian Mbappé, devrait être titulaire. Et puis Golden State, champion de NBA, le championnat de basket américain. Les Californiens qui prennent leur revanche sur Cleveland un an après leur défaite en finale.
France Info. On est avec Édouard Philippe ce matin jusqu'à 9h sur France Info. La question, c'est vous, Jean-Michel Apathy.
Des choix budgétaires difficiles sont devant vous, Édouard Philippe. Maintenez-vous l'engagement pris par le précédent gouvernement d'être à la fin de l'année 2017 en dessous des 3% de déficit? Et si oui, quelles sont les économies nécessaires pour atteindre cet objectif?
J'ai entendu l'engagement du précédent gouvernement d'être en dessous de 3%. Je crois même qu'il a chiffré cet engagement à 2,8%.
2,8, oui.
Très bien. Mais j'espère que le précédent gouvernement, je ne lui fais aucun procès d'intention, mais j'espère que le précédent gouvernement a intégré dans le budget 2017 l'ensemble des éléments qu'il a annoncés ou des décisions qu'il aurait prises dans le premier semestre, c'est-à-dire avant de passer la main.
Ce qui ne paraît pas être le cas, mais un audit de la Cour des comptes vous renseignera précisément sur le sujet, c'est ça ?
Avant de devenir Premier ministre, j'avais des doutes. Bon, maintenant que je suis Premier ministre, ouais, j'ai des doutes encore plus sérieux. Et pour les affiner, pour les objectiver, nous avons demandé à la Cour des comptes d'effectuer un audit et de nous dire au 1er juillet si nous étions sur une trajectoire qui permettait d'arriver à 2,8, si nous étions au-dessus. Vous comprenez bien que si nous sommes au-dessus, eh ben, il va y avoir toute une série de
c'est
mesures.
C'est très probable qu'on le soit, nous sommes d'accord.
Je crains que ce ne soit probable. Et je pense même que c'est un risque extrêmement fort. Et je m'en désole. Je m'en désole parce que c'est assez facile, dans les quelques mois qui précèdent une élection, de balancer un certain nombre de choses ou de lâcher un certain nombre de décisions dures à tenir. Mais ensuite, c'est les autres qui
gèrent. Et ensuite, il faut gérer la situation. On évoque des nécessaires économies d'à peu près 5 milliards. Vous confirmez le chiffre?
Non, j'attends l'audit de la Cour des comptes. Ce qui est certain, c'est qu'une fois qu'on aura le panorama complet, objectif, stabilisé de la situation budgétaire, il faudra qu'on regarde comment est-ce qu'on passe la fin de l'année et puis ensuite comment est-ce qu'on construit. Encore une fois, il faut à la fois être extrêmement réactif et avoir en tête le très court terme, parce que les échéances, elles sont à la fin de l'année. Il faut aussi avoir en tête le long terme. On fait une bonne politique, y compris une bonne politique budgétaire, si on raisonne pas simplement dans l'instant et si on dessine le chemin qui va nous emmener jusqu'à la fin du quinquennat, qui va nous permettre de mettre en œuvre les réformes.
Il n'y aura pas de collectif budgétaire, vous le confirmez?
Mais j'attire
vous
votre
attention.
Vous
pourriez en faire un en fonction de l'audit de la Cour des comptes.
On va voir ce que dit la Cour des comptes. C'est pas l'objectif. L'objectif n'est pas de faire un collectif budgétaire.
Vous ne l'excluez pas.
C'est pas l'objectif et je pense qu'il n'y en aura pas. Mais
d'accord.
Encore une fois, on a demandé un audit pour savoir exactement dans quelle situation. Je comprends que vous êtes pressé d'avoir la réponse à votre question. Moi, je suis pressé d'avoir la réponse à la question que j'ai posée à la Cour des comptes pour savoir exactement où on est. Et ensuite, en fonction de la réponse, attendez, si la Cour des comptes nous dit non, vous n'êtes pas à 2,8% de déficit, vous êtes à 2,5%. Franchement, tant mieux. Hein.
C'est pas sûr.
Mais c'est pas le plus probable.
Mais c'est pas le plus probable, vous voyez.
D'accord.
Les pays du Golfe et l'Égypte ont décidé la mise en quarantaine du Qatar, accusant ce pays de financer le terrorisme. Est-ce que cette accusation, cette analyse de complaisance du Qatar avec le terrorisme est partagée par Paris?
La France, elle parle à tout le monde dans la région. Je dirais même que c'est une de ses caractéristiques. Et je dirais même que c'est une de ses forces. Elle parle à tout le monde. Elle parle à l'Arabie Saoudite et à l'Égypte. Elle parle au Qatar. Elle parle à la Turquie.
Y a-t-il complaisance de Doha vis-à-vis du terrorisme?
Écoutez-moi bien. Elle parle.
Je vous écoute bien.
Elle parle à tout le monde. C'est sa force. C'est son intérêt. Et je vais même aller un peu plus loin. Je pense que c'est l'intérêt de la région. Parce que quand vous avez des oppositions frontales qui s'organisent et qui se développent à toute vitesse, je ne pense pas que ce soit sain pour la stabilité de la région. Je ne pense pas que ce soit sain pour les intérêts de l'Union européenne et plus généralement pour les intérêts des démocraties occidentales. Nous parlons à tout le monde et nous essayons de faire en sorte que les gens ne rentrent pas dans des logiques d'escalade. Et encore une fois, c'est l'intérêt de la France et je pense que c'est l'intérêt de la région.
Une dernière question, Édouard Philippe, qui va nous ramener aux élections législatives. Il y a une situation saugrenue dans le 18e arrondissement de Paris. Deux candidats se font face, Myriam El Khomri, l'ancienne ministre du Travail. Elle se réclame du soutien d'Emmanuel Macron. Et face à elle, au second tour, dimanche, Pierre-Yves Bournazel, que vous connaissez bien, avec qui vous avez beaucoup travaillé dans le passé auprès d'Alain Juppé. Et vous avez dit ceci de Pierre-Yves Bournazel. On vous écoute.
Je connais bien Pierre-Yves. Je sais que l'avoir au Parlement serait à la fois un atout pour le 18e arrondissement, mais aussi un atout pour la représentation nationale dans son ensemble et pour le pays.
Ma question est simple, vous souhaitez la victoire de qui dimanche prochain, de Myriam El Khomri ou de Pierre-Yves Bournazel?
J'ai répondu à cette question. Je connais Pierre-Yves depuis longtemps, j'ai travaillé avec lui dans le cadre de la primaire de la droite et du centre pour soutenir Alain Juppé, et je sais que ce sera un très bon parlementaire. J'insiste sur une chose, qu'il a indiqué lui-même, ouais, ce qui n'était pas évident, car il vient de la droite, comme moi, il a indiqué lui-même qu'il entendait se placer dans le cadre de la majorité présidentielle.
Myriam El Khomri aussi.
Myriam El Khomri aussi. Et il n'y a pas de candidat labellisé En Marche. Et
donc, c'est open bar le gouvernement. Quoi.
Non, je crois pas.
C'est en même temps, en fait.
C'est votre première divergence avec Emmanuel Macron.
C'est pas du tout une divergence.
Ah bon ?
Encore une fois, encore une fois, j'insiste là-dessus. Il n'y a pas de candidat En Marche.
Myriam Bournazel.
Et il y a deux candidats avec des passés différents, avec des engagements différents, qui entendent se placer dans la majorité présidentielle.
Avouez que c'est pratique pour les électeurs.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que moi, je souhaite qu'il y ait une majorité stable qui soutienne le président de la République, le gouvernement, et la diversité dans sa composition est une force. Voilà, c'est ce que je pense.
Merci Édouard Philippe d'avoir accepté l'invitation de France Info.
Merci à tous, on se retrouve demain.